Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Kubrick en 2011 est à l'honneur. La Cinémathèque de Paris lui consacre une exposition formidable et projette l'ensemble de sa filmographie. Le Festival de Cannes lui rend hommage en projetant une copie restaurée d'Orange Mécanique à l'occasion du 40e anniversaire de la sortie du fameux film. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'historien Jean Tullard pour parler de Napoléon, une fois encore, et de cinéma, l'autre passion de Jean Tullard, toutes deux, cette fois réunies sous le beau sujet d'un film que personne ne verra, un de ces projets avortés qui excite l'imagination. Je veux parler du Napoléon de Stanley Kubrick, jamais réalisé, sur lequel le cinéaste de génie avait pourtant énormément travaillé. Donc, le Napoléon de Stanley Kubrick, le meilleur film jamais réalisé, c'est le titre d'un livre-objet qui ravira les inconditionnels à la fois de Kubrick et de Napoléon, et c'est un livre auquel Jean Tullard a participé à la demande de l'éditrice Alson Castle. Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler de ce livre, qui est donc un livre publié en 2011 chez Ta Chaîne, qui existe en version française, allemande et anglaise, donc tout ça dans le même volume. Il y a eu une édition originale très belle, limitée, qui est, je crois d'ailleurs, presque épuisée. Et là, nous avons un volume qui contient à peu près toute la documentation qu'avait accumulé Stanley Kubrick pour ce grand projet. Avant peut-être de commencer, Monsieur Tullard, est-ce que vous pourriez juste nous présenter, pour la forme, la couverture de cet ouvrage ?
Alors, c'est une couverture, évidemment, qui reproduit une reliure ancienne avec les armes de l'empereur. On aurait pensé qu'on voyait une caméra et la tête de Kubrick, mais non, on voit les armes impériales, le sceau de l'Empire.
Alors ça, c'est très étonnant. C'est peut-être le clin d'œil de simplement de l'édition, de la maison d'édition au travail peut-être préparatoire de Kubrick.
Un clin d'œil très commercial. Napoléon se vend bien. Enfin, les livres sur Napoléon se vendent bien. Les livres sur le cinéma, c'est connu, se vendent moins bien.
On va voir que ce livre, qui comprend à la fois le projet de scénario, mais aussi les milliers de clichés qu'avait déjà réalisé Kubrick, avec une dizaine d'assistants d'ailleurs qui ont fait des recherches pour lui. Il était en correspondance avec un historien britannique de l'université d'Oxford. Donc il y a un travail préparatoire énorme, colossal. Comment définiriez-vous, Jean Tullard, d'abord le sens de l'histoire chez Kubrick ? Parce que là, ce film se situe entre 2001, l'Odyssée de l'espace et Barry Lyndon. Mais quel est le sens de l'histoire, son sens de l'histoire ?
Il est incontestablement que Kubrick a été fasciné par Napoléon. Il avait déjà fait un Spartacus, mais le Spartacus était un travail de commande. Il avait remplacé sur le plateau Anthony Mann, qui avait été remercié par Kirk Douglas. Spartacus, c'est un très bon film, historiquement très juste. Bon. Et il était, le brave Kubrick, fasciné par Napoléon. Beaucoup de cinéastes ont été fascinés par Napoléon, nous y reviendrons. Il y avait un précédent fameux qui était à Bellegance, il y avait Sacha Guitry, il y avait Bondarchuk qui avait tourné, un russe qui avait tourné Waterloo. Bref, Napoléon a toujours été un sujet de cinéma, parce qu'il disait « quel roman que ma vie !» Il aurait pu dire « quel film que ma vie !» Vous avez tout dans l'épopée napoléonienne. Vous avez la gloire, mais vous avez aussi l'amour. Rien que les personnages féminins, Joséphine, Pauline, Marie-Louise, Marie Walewska, vous avez de quoi faire 50 films. Et d'ailleurs, ces 50 films ont été faits. J'ai cité Marie Walewska. Eh bien, Greta Garbo a interprété Marie Walewska. Et Charlie Chaplin avait été, dit-on, tenté de tourner un Napoléon. Et nous avons une photo où il est en tenue de Napoléon. Aurait-il tenu le rôle de Napoléon ? Je ne sais. C'est vous dire que donc Napoléon est un sujet cinématographique, ce qui caractérise l'œuvre de Kubrick.
Mais quel était son sens de l'histoire, lui ? parce qu'il a quand même choisi de faire plusieurs films de sujets historiques.
Pas énormément, il y a de tout. Hein. C'est oui, surtout sûr, un spécialiste du thriller. Son chef-d'œuvre, bien entendu, c'est 2001, Odyssée de l'espace, qui fixe les règles de la science-fiction. Et nous allons revenir sur Barry Lyndon. Barry Lyndon n'était pas prévu. C'est parce qu'il n'a pas pu tourner Napoléon qu'il a fait Barry Lyndon. Mais a priori, ce n'est pas Sacha Guitry. Sacha Guitry est un passionné d'histoire qui fait des films historiques, entre guillemets. Là, Kubrick a été intéressé par le personnage de Napoléon, qu'il a fasciné. Il a senti qu'il y avait un sujet cinématographique. Il savait que Gans n'avait jamais pu terminer. On était resté à la campagne d'Italie et puis ensuite avait tourné
ce grand film muet, un triptyque
et qui restait le film référence, le sommet du cinéma muet. C'est avec le cuirassé Potemkin l'un des films les plus célèbres du cinéma muet. Donc il avait envie de refaire ça au parlant, mais Gans avait prévu 6 épisodes. Lui, il voulait faire en un seul film, comme d'ailleurs Guitry a fait un Napoléon en un seul film.
Est-ce que c'était trop ambitieux de prendre comme ça la vie entière de Napoléon ?
C'était trop ambitieux et c'est l'une des raisons pour lesquelles finalement le film n'a pas vu le jour. On ne peut pas partir du début pour aller jusqu'à Sainte-Hélène sans véritablement d'abord sacrifier des épisodes importants et sans pouvoir vraiment éviter autre chose qu'un condensé dans le temps qu'il avait prévu pour la durée du film. Bref, c'était un projet, à mon sens, beaucoup trop ambitieux, mais un projet qui lui tenait à cœur. Nous en avons la preuve, car si nous n'avions pas ce livre, on dirait oui, Kubrick comme ça, entre deux verres de whisky, a dit tiens, si je faisais un Napoléon, King Vidor vient de faire un Guerre épée, Walsh a fait La Belle Espionne, où l'on voit Gérard Houry en Napoléon, bref, tiens, je vais faire la même chose. C'est pas ça du tout.
Il nourrissait une véritable passion pour Napoléon.
Oui, et il avait en même temps, c'est le réalisateur de tous les réalisateurs qui ont tourné, le plus rigoureux, le plus consciencieux. Et alors, quand vous voyez l'accumulation ça va d'une carte postale qui représente Napoléon à un tableau pompier, ou à une image d'Épinal, ou à une gravure d'époque.
Ou une gravure du 19e complètement farfelue.
Il réunit sur Napoléon plus que n'importe quel collectionneur passionné de Napoléon n'a pu réunir, parce qu'il a de gros moyens. C'est fou ce qu'il a réuni. Et il rédige, il travaille.
Ah oui, il a fait une chronologie au jour le jour. Enfin, il a fait faire.
Oui, et il s'entoure d'un conseiller historique qui est Félix Markham, qui est mort, qui était un grand spécialiste anglais de Napoléon, qui a fait... Malheureusement, ses livres n'ont jamais été traduits en français, mais son fils, lui, a continué. Mais là, le Félix Markham, donc, il le consulte, il parle avec lui, et on voit que dans cette conversation, il s'imprègne du sujet. Alors que pour moi, qui étais conseiller historique de film, il me souvient que chaque fois, on mettait un script, puis on me disait « regardez ce qui ne va pas là-dedans ». Ah, je disais « oui, ça ne va pas. Regardez, vous savez, c'est toujours les anachronismes. Il y a des anachronismes très fameux. François Ier disant à l'un de ses compagnons « nous allons aller dans cette forêt qui est à quelques kilomètres d'ici ». Vous voyez l'anachronisme. Où Néron, dans sa loge pendant les Jeux du Cirque, et Pétrone est à côté de lui, on entend les cris effarouchés de jeunes vierges qu'on livre au lion, et Pétrone dit à Néron « ce que t'es sadique, Néron ». Ce qui, évidemment, est tout à fait anachronique. Bon, ça, ce sont des choses très dangereuses. Alors, on vous demande de bien regarder ça. Et puis, j'allais une ou deux fois sur le plateau, j'ai raconté souvent, mais...
Sur quel film êtes-vous intervenu ?
Sur la Révolution française, précisément, et avec des problèmes que j'ai souvent racontés, notamment le procès du roi, où on voit les conventionnels monter à la tribune, et le roi est en bas, assis. Ce qui, évidemment, le roi était au temple quand il décide son sort. Et à un moment donné, monte à la tribune Sieyès, qui dit « la mort ». Sans phrase. Alors j'arrête, c'est un Américain qui tournait ça, et je dis, me dit-il, il me montre une photocopie du moniteur où il y avait Sieyès, Lamort, entre parenthèses, sans phrase, parce qu'il n'avait pas eu le courage de justifier, tellement il avait peur, la sentence. Et donc, je lui dis, vous voyez bien que c'est entre parenthèses, me dit-il, mais c'est très embêtant, parce que on coupe la moitié du cachet du comédien qui n'a que cette réplique.
Une seule réplique.
Alors, je dis bon. Et heureusement, ça a été coupé au montage. Donc, c'est vous dire que le rôle du conseiller historique, bon, il a pour éviter de grosses gaffes, mais ça a été le cas de Mandroux pour Le Retour de Martin Guerre. Je crois que Jacques Le Goff l'a été pour Le Nom de la Rose. Bref, on fait appel à un historien, on lui dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Là, c'est très différent. C'est lui qui interroge, qui mène le jeu et qui interroge chaque fois Félix Markham sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'il a une garantie absolue.
Il avait donc un souci historique de la réalité historique. Pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui.
Alors, on vient de voir comment, effectivement, l'accumulation de la documentation est fascinante, et son organisation, véritablement, ça fait véritablement penser à un sujet de thèse ou de grande recherche. Il a ce souci évident de bien faire et de faire juste. Par exemple, si on prend le cas des costumes, parce que c'est sûrement peut-être celui qui est le plus connu.
Le plus dangereux
et le
pour
plus
les
dangereux.
Uniformes.
Alors,
vous savez, parce que vous avez la Sabretache qui veille, par exemple. La Sabretache avait condamné formellement le film de Ridley Scott, Les Duellistes, parce qu'il y avait un général qui ne portait pas, au moment où se situait l'action, les parements qu'il n'a portés qu'en 1811, enfin beaucoup plus tard. Bref, ça ne pardonne pas. C'est plus redoutable.
C'est le détail qui tue.
C'est le détail qui tue du spécialiste, mais le spécialiste écrit dans le Figaro ou dans le Monde et hop, c'est fini, le film n'est pas sérieux.
Il a passé un temps fou sur ces histoires de costumes, ouais. C'était impressionnant.
Mais oui, alors
il a fait réaliser des costumes.
Mais oui, et alors les robes de femmes aussi, parce qu'il y a, chez lui, c'est un esprit ultra méticuleux. Quand vous voyez d'ailleurs ces films, l'Odyssée de l'espace, par exemple, et ce que sera Barry Lyndon, qui est extrêmement... Tout a été étudié dans le moindre détail. Vous comprenez que pour Napoléon, il a été encore plus rigoureux, car là, évidemment, il savait qu'il y aurait des spécialistes qui contesteraient tout. Donc, véritablement, cet énorme livre, rempli de photos, rempli de textes, rempli de documents, c'est extraordinaire, c'est déjà presque un Napoléon. Et lorsque vous lisez le fruit... ce qui en est sorti, c'est-à-dire le scénario, puisque nous l'avons, il n'avait plus qu'à dire moteur. Honnêtement,
qu'en pensez-vous ?
Ça ne fonctionne pas.
Alors,
ça ne fonctionne pas, ce n'est pas... Enfin, c'est un texte. Et lui, c'est l'homme de l'image, c'est l'homme de la photo. Donc, il faudrait voir ce que ça a donné. Mais...
Pourtant, le texte donne une idée de l'angle et de l'orientation qu'il a voulu donner à la vie qu'il avait choisi de traiter dans sa totalité, dans la vie de Napoléon. Alors, est-ce que ce scénario faisait-il la part trop belle à la vie privée de Napoléon,
beaucoup,
à ses amours,
beaucoup.
Par rapport à l'homme politique ? C'est ce que vous semblez lui reprocher.
Oui, et même pour les batailles. Je vous ai dit, le sujet Napoléon est très riche. Il a privilégié plutôt Napoléon et les femmes. Beau sujet, d'ailleurs.
Bon sujet.
Frédéric Masson avait traité, il ne le cite pas, mais enfin, Frédéric Masson a fait un très beau. Et effectivement, c'est Joséphine qui est le personnage central dans cette histoire. Et il a rajouté, alors là, c'est sa faiblesse, il rajoute des personnages qu'il invente. Il y a notamment une dame qu'il rajoute. Donc, je pense que ça aurait été certainement au niveau de l'image extraordinaire, mais ça n'aurait pas été Napoléon. À dire vrai, lorsque vous lisez le scénario d'Abel Gance, que d'ailleurs j'ai republié, il y a déjà, je suis abonné au scénario de Napoléon cinématographique, lorsque on l'a republié, effectivement vous vous dites « mince, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et quand ça passe à l'image, ça devient extraordinaire, ça devient sublime. C'est ça le génie du metteur en scène, c'est ça le génie du cinéaste. Et donc, on ne peut pas juger honnêtement le scénario que l'on a là, qui, moi, on ne m'emballe pas du tout, par rapport à ce que cela aurait donné à l'écran.
Modifiait-il son scénario au cours du
tournage ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux, pour ça que je vous ferai la question. Je ne sais pas la méthode de tournage de Kubrick. Il était très perfectionniste. Les prises étaient refaites plusieurs fois. En tout cas, quand vous voyez le scénario et tout l'effort qui a déjà été accompli et que vous êtes producteur de cinéma, vous vous dites, oulala, est-ce que ça va marcher ? N'oubliez pas que là, Kubrick, aujourd'hui, bon, si Kubrick revenait parmi nous, n'importe quel scénario qu'il proposerait, il trouverait 90 producteurs. Là, nous sommes dans une époque où il n'est pas encore, malgré l'immense succès de l'Odyssée de l'espace, malgré Orange Mécanique, la consécration, ça va être précisément le film qu'il fait parce que...
Parce qu'il échoue, là.
Il échoue. Alors, pourquoi les producteurs se méfient-ils? C'est effectivement que c'est quelque chose de coûteux. Un Napoléon, ça vaut cher. Ou alors, il faut le faire comme Sacha Guitry, où toutes les batailles ont été tournées dans les morts et l'Esterel, ce qui fait que même Waterloo, vous avez des montagnes dans le fond, mais ça n'a aucune importance. C'est du Sacha Guitry et tout est dans le dialogue. Bon, Guitry, tandis que là, c'est très différent. Et il y avait eu, avant, un film admirable, qui est probablement l'un des plus beaux sur Napoléon, c'est le Waterloo de Bondarchuk. Et le Waterloo de Bondarchuk a été un désastre financier. C'est un film que je trouve admirable, il est ressorti en DVD, la reconstitution de la bataille vue par hélicoptère, où l'on voit les charges de cavalerie se briser sur les carrés anglais. Bon, c'est extraordinaire. Alors, l'interprétation de Rod Steiger est un peu acteur studio, un peu, il ridiculise quelque peu Napoléon, mais enfin, c'est un très beau film, et il n'avait pas marché. Il avait coûté très cher, et Laurentis, qu'il avait produit, s'était cassé la figure. Et donc, les producteurs ont hésité devant le projet de Kubrick et il a été forcé, alors que tout était prêt, il a été forcé de renoncer faute d'argent et il a proposé à ce moment-là un autre film, Barry Lyndon, que certains tiennent pour son chef-d'œuvre, pour l'un des plus beaux films, pour l'image, pour la qualité de l'interprétation, la reconstitution d'époque. Beaucoup le considère comme son chef-d'œuvre. Moi, je préfère les petits thrillers style Ultime Razzia.
C'est
Ultime
le Razzia. Premier film.
Les premiers films sont ceux que je préfère, évidemment, ceux de la série B américaine. Mais Barry Lyndon est effectivement une œuvre, mais académique.
Vous émettez des réticences proches de celles de Godard sur son...
Sur Barry Lyndon,
ouais,
oui.
Sur son esthétisme, sa froideur, en fait.
Oui, sa froideur, et on n'entre pas, alors que Ultime Razzia, qui est comme une sorte d'imitation de Asphalt Jungle, de Huston, ces petits films, série B américaine, qui ne coûtaient pas cher, qui se passent la nuit, avec des rues mouillées, des types, tous les acteurs sont toujours merveilleux, les troisièmes couteaux, quand ils surgissent, Neville Brand, Lee Van Cleef, Jack Ellar, mettez en pour en citer 50, Têtes de Corsaire et autres, tout ça est extraordinaire, mais c'est un cinéma américain, car ne l'oubliez pas, je crois que Kubrick est anglais, est américain. Et en réalité, il est dans ce cinéma américain d'Anthony Mann, de Phil Garlson, de Walsh et autres, de ces séries B américaines admirablement ficelées.
Pourrait-on dire que justement c'est la vision hollywoodienne ou du cinéma hollywoodien qui a phagocyté un peu l'esprit de Kubrick, qui est pourtant créateur, génial créateur en tant que cinéaste. Là, vous dites dans la partie que vous avez apportée à cet énorme ouvrage que justement il n'a pas su s'emparer du mythe de Napoléon, ce qui est surprenant chez quelqu'un comme Kubrick, à la lecture du scénario.
Oui.
Vous pourriez développer ce,
alors,
ce point
oui,
de vue ?
Oui, dans la mesure où, si vous voulez, Kubrick est avant tout un technicien et un photographe. C'est-à-dire que la photo aurait été admirable. Mais il y a aussi le personnage. Alors Gans lui-même était un inventeur d'effets techniques, c'était un admirable technicien, la caméra sur dans la boule de neige, la caméra attachée au
et
cheval.
Et Kubrick aussi, parce que pour chaque film,
Kubrick,
il a réinventé quelque chose.
Il réinvente, mais alors le grand problème, c'est l'interprète. Qui aurait interprété le personnage de Napoléon ?
Du début à la fin.
Du début à la fin. Et donc là, dans le Gans, c'est Dieudonné. Et Dieudonné était complètement fou. Et d'ailleurs, le film l'a rendu fou, l'a achevé. Moi, je l'ai connu, Dieudonné, sur la fin de sa vie. Il venait faire des conférences à l'Institut Napoléon et il venait lire des lettres de Napoléon, c'est-à-dire des lettres qu'il était de plus en plus convaincu qu'il avait écrites lui-même et qu'il nous ressortait. Et je lui disais, « Sire, vous avez la parole. » Et à la fin, bien entendu, on n'applaudissait pas, parce qu'on n'applaudit pas à l'empereur, mais on criait « Vive l'empereur !» Et il partait content. Et il lisait avec beaucoup de conviction parce qu'il s'était progressivement identifié. Au point, il s'était si identifié avec le personnage que, ayant tourné Napoléon de Gans, jeune, c'est-à-dire le personnage de Bonaparte, il finit sa carrière en 1940 avec Madame Sans-Gêne de Richebey, où il est Napoléon. Il a engraissé dans l'intervalle et il est passé exactement dans l'évolution physique de Bonaparte à Napoléon. Alors là, c'est lui qui donne à ce film toute son âme, parce qu'il y a un interprète et qui y croit, qui se prend pour Bonaparte. Et comme Gans lui-même se prenait pour le Lascaz de ce Bonaparte, tout ça décolle. Bon, alors ça fait rigoler, vous savez. Vous me pardonnez, nous sommes à Canal Académie, mais ce que disait Jean Vigo du Napoléon de Gans sur triple écran, c'est trois fois plus con. Bon, on peut l'interpréter comme ça. Moi, je l'ai présenté à l'Opéra à la demande de mon confrère Gall, et sur la scène de l'Opéra Bastille, et le public était enthousiasmé avec la musique qui était dirigée par Petit Girard.
Dans la salle.
Autre confrère de l'Académie.
Des Beaux-Arts.
Oui. Et donc, ça a été... Bon, le public marchait, mais ça ne marche pas toujours. Alors, que serait devenu ce Napoléon de Gans?
Est-ce qu'on a des idées d'après la documentation?
On ne peut pas dire, puisqu'il n'y a pas eu des passages tournés. Et il se peut très bien qu'ayant fait ce film, vous savez que son premier film, je n'en ai vu que des morceaux, mais il y a un film de lui qui l'interdit, qui n'est même pas dans la rétrospective de son premier film, de la Cinémathèque. Il a même interdit qu'on le passe, donc la Cinémathèque ne l'a pas passé alors qu'il existe. J'en ai vu des morceaux. Mais il aurait peut-être interdit après ce Napoléon. On ne savait pas avec lui ce qui allait se passer.
Pour les héroïnes féminines, qui fait la part belle là, dans ce film, là encore, on ne connaît pas non plus, malgré toute la correspondance et toute la documentation, quelles actrices étaient pressenties. Vous avez une idée?
On avait dit Audrey Hepburn pour Joséphine, ce qui ne me semble pas tout à fait collé. Vous savez, les interprètes de Napoléon, à l'écran, il y en a eu énormément. Ça n'a pas une très grande importance, l'interprète de Napoléon, parce que donner à n'importe quel acteur un petit chapeau, mettez-lui une mèche et la main dans le gilet, quel que soit le personnage, les gens disent Napoléon. La preuve, c'est que même Christian Clavier a interprété le personnage de Napoléon. C'est-à-dire que n'importe quel acteur peut l'interpréter, mais il y faut, en plus, un certain souffle que donner Dieudonné. Alors, les meilleurs Napoléon, ceux qui étaient les plus proches, j'ai souvent présenté des extraits de films, comme les 12 Césars, les 12 Napoléons, présentaient 12 extraits de films avec des interprètes différents. Et en demandant au public, à la fin, de voter pour savoir quel est le plus ressemblant. Alors, je peux vous dire que celui qui l'emportait, ils sont ex aequo. Dans l'ensemble, c'est d'une part Pierre Mondy, qui vit toujours d'ailleurs, et donc il aurait pu faire un très bon Napoléon chez Kubrick, et surtout peut-être plus proche encore de Napoléon, Raymond Pellegrin. Raymond Pellegrin dans le Napoléon de Guitry. Et c'est parce que vous avez un acteur qui ressemble à un acteur qui met son âme dans le film que ça fonctionne. Alors là, pour Kubrick, on ne sait pas.
Qu'est-ce qui vous a chiffonné ou frappé à la lecture du scénario? Pensez-vous des dialogues, par exemple?
Oui, les dialogues, alors nous ne les avons là, moi je les ai lus en français. Bon, en anglais, c'est peut-être différent, c'est peut-être plus près d'un anglais. Parce que lorsque vous reconstituez une époque, il m'est arrivé de faire des dramatiques pour la radio sur France Inter, vous avez des mémoires à côté pour voir comment les gens parlent. Et même si vous vous lancez dans des périodes lointaines ou autres, il faut toujours faire attention. Les péplums, c'est assez facile parce que vous avez, si vous avez fait du latin, vous avez la phrase latine, non solum sed etiam, donc vous pouvez faire parler en français, mais donc avec la structure des phrases latines, leur construction, vous pouvez n'être pas ridicule. Mais il est évident que, lorsque je me souviens d'une émission historique à la radio, où on reconstitue, c'était Othon Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique, et où l'on entendait Othon Ier dire « Jante dame, beau damoiseau », effectivement, ça s'assombrait dans le ridicule le plus total, parce que ce n'était pas comme ça que devait parler Othon.
Dans le scénario, quand il fait parler Joséphine et Napoléon, c'est presque anecdotique, pittoresque, on dirait.
Il avait des lettres, il avait rien que la façon dont Napoléon parle à Joséphine. Vous avez, est-ce qu'il lui dit bonjour ma petite chérie, comment vas-tu yo-yo, etc. Non, on sait sur Napoléon. Dites-vous bien une chose, sur Napoléon, on sait tout, mais absolument tout, sauf évidemment le Rosebud, le secret de Citizen Kane qui vous échappe. Mais pour l'extérieur, vous savez absolument tout, y compris le fait qu'il avait des difficultés pour uriner, y compris le fait qu'il Il portait des lunettes, il avait une myopie que le docteur Amalric avait calculée à je ne sais plus quelle bataille où il avait des lunettes. Et donc, on sait tout de lui. Et donc, on sait comment il parlait à Joséphine, comment il parlait à Talleyrand. Donc, c'est assez facile à faire, Napoléon.
Comment vous avez jugé ces dialogues, justement
cinématographique, mais encore une fois, je ne sais pas si on a eu raison de publier ce scénario. C'est à la fois impressionnant par la conscience professionnelle de Kubrick et en même temps un peu naïf. Kubrick est un juif américain, est-ce qu'il n'a pas la culture de cette époque ? Quand vous écrivez une pièce, un film sur une époque, il faut en être imprégné. Sinon, ça tourne à plat, ça arrive à être Alexandre Dumas, nous autres gens du Moyen-Âge. Ça devient totalement ridicule ou cuistre, parce qu'on veut tout caser.
Il aurait réussi avec Barry Lyndon pour vous, justement, ce défi a été relevé.
Le défi a été relevé avec pleinement. Barry Lyndon, parce que là, c'est d'après un roman anglais, il y a les gravures qui s'animent, il y a le roman, c'est-à-dire qu'ils avaient une structure. Et donc, il peut faire parler les personnages beaucoup plus facilement que là, parce que bon, nous n'avons jamais entendu Napoléon parler à Joséphine. D'ailleurs, de toute façon, Napoléon avait un accent corse, Murat avait un accent du sud-ouest, et Boudiou, et Lefebvre avait un accent alsacien à couper au couteau, Ney avait aussi ses accents. Donc, c'était une cacophonie d'où on ne remarquait pas probablement l'accent corse de Napoléon. Mais nous savons, puisqu'il y a des lettres et autres, comment il prononçait. Donc, tout ça, on ne peut pas le mettre dans le film. J'ai essayé une fois, vous voyez, une fois, et je me suis complètement trompé, c'est dans ces pièces de radio, j'avais imaginé la première rencontre de Laurel et Hardy. Vous voyez, c'était une dramatique sur France Inter, et donc, vous ne pouvez pas faire parler en anglais les personnages, sinon personne n'a. Donc, il fallait en français, et j'avais eu cette idée que je trouvais géniale, de les faire parler avec l'accent qu'ils ont dans les films doublés, car il faut voir les Laurel et Hardy en France dans les versions doublées. Alors, se laisser emporter. Eh bien, faisant parler « Comment vas-tu, Laurel ?»« Toi, Hardy ?» Eh bien, ça ne fonctionnait pas. L'émotion n'y était pas. Ce n'était pas raté, mais enfin, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ce que j'avais voulu mettre. C'est-à-dire cette émotion à la fin, lorsque Hardy meurt, le premier, bon, et que Laurel vient le voir, bon, ça ne marchait pas. Et donc, c'est très difficile. Et on ne peut pas entièrement critiquer les dialogues de Kubrick. Il faut les voir ensuite.
Il faudrait les voir à l'image.
Dans l'image.
Ouais. Donc là, on restera sur notre fin. Mais le visage de Napoléon que vous présentez quand même à cette lecture de scénario, c'est un Napoléon comment pour vous ?
Un Napoléon, vous l'avez dit, hollywoodien. Un Napoléon, au fond, qui était celui que composait Charles Boyer dans Marie Walewska avec Greta Garbo, qui l'éclipsait complètement, et où on avait demandé à Charles Boyer, comme il avait été sélectionné comme Latin Lover, parce qu'on présentait Napoléon comme une sorte de Latin lover, et alors il faut le voir, bien entendu, avec, dans la version originale, parlant anglais et déclarant à cette brave Greta Garbo « I love you, me darling ».
Bon, on va rester sur ce mot. C'est le mot de la fin de Napoléon de Kubrick, le plus grand film jamais tourné, vu par Jean Tullard. Merci, monsieur Tullard.